60 minutes business. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, bienvenue dans 60 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. Nous sommes avec Jean-Marc Daniel, bonjour.
Bonjour.
Jean-Marc, nous allons décrypter évidemment les dernières infos avec nos reporters, nos invités. Au sommaire de ce mardi 4 octobre, nous avons un champion à bâtir. Les mots de David Layani ce matin sur BFM Business, le patron de OnePoint, dont l'offre de reprise des activités de cybersécurité d'Atos a été rejetée, n'abandonne pas la partie. Nous allons parler de ce dossier Atos avec Mathieu Pechberti. C'est en ce moment le mondial du bâtiment à Paris en pleine crise de l'énergie, en pleine transition énergétique. Le secteur se repense et mise notamment sur la filière bois. Mais où en est-elle? Nous allons en parler avec Alexandra Paget dans notre focus. Et puis on fera un point sur l'industrie hôtelière française. Comment s'est passée cette année 2022? Comment évolue l'hébergement en France? Le secteur est-il toujours attractif? On posera ces questions à Stéphane Botz, directeur national Hospitality Capital PMG. Et puis à 12h30, Lorraine Goumeau va nous rejoindre pour la deuxième partie de l'émission BFM avec vous. On répondra à toutes les questions que vous nous avez posées à cette adresse avec vous, @bfmbusiness.fr et sur les réseaux sociaux. Allez, tout de suite, c'est le journal. La direction d'Atos s'attaquait de toutes parts et ce matin, David Layani, le patron de OnePoint, dont l'offre de rachat d'Atos, la partie cybersécurité, avait été rejetée la semaine passée, était l'invité de Good Morning Business. Le président d'Atos, Bertrand Meunier, ne l'a pas reçu. David Layani a pourtant, il dit, avoir en tout cas le soutien des salariés. On l'écoute.
C'est un projet qui dépasse les uns et les autres, ma propre personne. Il s'agit de 110 000 salariés. OnePoint est une entreprise de 3 000 salariés qui s'est imposée comme un leader de la transformation digitale. On a ce champion à bâtir. On veut le bâtir de façon amicale, collaborative, pensée, pesée. J'ai bon espoir que les uns et les autres considèrent les choses pour qu'on puisse discuter.
L'offre est toujours sur la table. Ça n'a pas changé au même niveau.
Sur la table.
4 milliards d'euros.
Elle est toujours amicale.
Ouais.
Et on demande toujours aux uns et aux autres de prendre leurs responsabilités pour qu'on puisse discuter et lever, le cas échéant, tous les obstacles.
Mathieu Pechberti, David Layani dit avoir reçu le soutien de centaines de salariés, d'actionnaires, de clients. Pour le moment, pas de retour de leur part. Mais est-ce que cette offre de OnePoint a des chances d'aboutir?
Bon, écoutez, sur le fond, elle a peu de chances d'aboutir. OnePoint est une société qui est beaucoup, beaucoup plus petite qu'Atos. En plus, OnePoint s'associe à un fonds britannique pour financer cette offre. Et vous savez, au sein d'Atos, il y a des activités de cybersécurité qui sont en tout cas vraiment considérées comme souveraines et stratégiques par le gouvernement français. Donc, et puis, enfin, son offre est considérée, alors là c'est le jeu du marché, mais par certains actionnaires comme trop basse, même si ce n'est qu'une première offre. Donc, sur le fond, peu de chance. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que OnePoint se met au centre du jeu, ou en tout cas fait valoir sa position dans le secteur des services informatiques, et qu'il va obliger quelque part Atos, les actionnaires et les concurrents d'Atos aussi à se positionner.
Oui.
Il met un pied dans la porte dans ce dossier. Vous savez que ça fait maintenant de longs mois que beaucoup de sociétés s'intéressent aux activités justement de cybersécurité d'Atos. On en a beaucoup parlé, Thales, Orange, Airbus ou d'autres, ou Inetum par exemple. Et personne n'était réellement sorti du bois, puisque justement le président d'Atos, M. Meunier, avait depuis de longs mois bloqué ses prétendants, refusé de discuter ou d'envisager un quelconque rapprochement ou une quelconque alliance. Là, il met le dossier au milieu de la table et on va voir comment les uns et les autres réagissent.
Et justement, ça commence à bouger chez Atos, Mathieu, hein, d'après vos informations ce matin, Bertrand Meunier va quitter son poste dès l'été prochain.
Oui, alors vous savez qu'Atos a lancé en juin dernier une scission de ses activités en deux, un découpage de l'entreprise en deux, avec encore une fois ses activités de cybersécurité d'un côté, du digital, du cloud, et puis le reste, les activités dites de services informatiques un peu classiques. Et effectivement, cette opération, alors qui devait être réalisée fin 2023, on nous dit en fait qu'en réalité elle sera réalisée dès l'été prochain et que ce sera justement l'occasion pour le président Bertrand Meunier de quitter ses fonctions. C'est important parce que ça fait des mois et des mois que beaucoup d'actionnaires demande son départ d'une manière très rapide. Vous savez, le cours de bourse d'Atos a dégringolé de 80% en un an.
Ce matin, il a remonté. Hein.
Alors, il est remonté un petit peu, effectivement, après nos informations, mais même depuis l'annonce du plan stratégique au mois de juin, il a été très mal accueilli par les marchés. Et donc, son départ en juin prochain, au moment où l'entreprise sera découpée en deux, est aussi une manière d'un petit peu de calmer certains actionnaires qui demandaient carrément la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour débarquer Bertrand Meunier. Voilà, c'est un peu une réponse aussi pour dire aux actionnaires, patientez, patientez. les choses avancent doucement mais sûrement.
Jean-Marc Daniel.
Oui, je suis assez frappé par cette saga. Quand on sait qu'il y a dans Atos Bull, qui était une des composantes du plan calcul, et on en est encore à des jeux de dominos, à des jeux de reconfiguration du paysage. L'informatique française est véritablement quelque part maudite. Hein. On a du mal à faire exister l'informatique française, malgré des talents. Et puis la deuxième remarque que je ferai, la vitesse à laquelle l'action a baissé, vraiment la roche tarpéienne est proche du Capitole, non seulement pour les hommes, mais aussi pour les entreprises. On peut brutalement voir une entreprise qui avait une image de marque d'être une entreprise qui avait été dans le CAC 40, qui était une entreprise qui était en pointe, qui symbolisait justement cette capacité des Français à être vraiment partie prenante dans l'informatique malgré leur passé. Et on découvre que finalement, de nouveau, ça part dans tous les sens. Le président est totalement illégitime. Il se maintient dans des conditions qui sont absolument invraisemblables. Je trouve ça passionnant sur le plan littéraire, très inquiétant sur le plan économique.
Un dossier que l'on suit de toute façon, jour après jour, avec vous, Mathieu Pecheberti. Merci beaucoup. Dans cette actualité également, le budget qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée avec le début des débats en commission des finances, des coupes dans les niches fiscales sont proposées par les députés de la majorité, notamment celles néfastes à l'environnement, ainsi que, Jean-Marc Daniel, une réduction du nombre de fonctionnaires.
Oui, ça fait partie un peu, là aussi, des poncifs habituels. On a droit toujours à une réduction du nombre de fonctionnaires, et puis à la fin des fins, quand arrive le rapport de la Cour des comptes, le rapport de l'INSEE, tout ça, on s'aperçoit que le nombre de fonctionnaires a continué d'augmenter. Ce que je trouve intéressant dans le débat budgétaire, c'est que tous les prétextes vont être bons pour déclencher une sorte de guérilla contre le gouvernement et contre le président de la République. Et donc, l'enjeu budgétaire est en train de passer au second rang. Okay. Et donc, le fait qu'on supprime un certain nombre de fonctionnaires, je pense que même les syndicats de fonctionnaires ne vont pas s'en émouvoir.
Allez, c'est l'heure de notre focus à l'occasion du salon Batimat qui est porte de Versailles en ce moment à Paris jusqu'à jeudi. On fait un focus sur la filière bois, l'une des stars de ce salon du bâtiment. Où en est cette filière? On va voir ça avec vous, Alexandra Pagé. Le bois, c'est le matériau de la transition écologique par excellence, renouvelable, biosourcé. Si on espère atteindre la neutralité carbone fixée à 2050 dans la construction, ça semble être la solution. Mais comment elle se porte, cette filière, Alexandra Paget?
Alors déjà, il y a une chose de sûre, et c'est assez rassurant, la matière première. La France n'en manque pas, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. 17 millions d'hectares de forêt couvrent l'Hexagone, c'est-à-dire 30% du territoire. C'est le troisième stock forestier d'Europe. Bon, le hic, c'est que seulement 63% du bois utilisé par la construction vient de cette forêt, c'est encore insuffisant. En fait, de nombreux bois composites sont importés, je ne vais pas rentrer dans une technique qui effraierait tout le monde, mais sont importés donc des pays européens comme le lamellé collé ou le CLT, c'est-à-dire en fait un produit destiné aux immeubles de grande hauteur, souvent présenté comme le remplaçant du béton en gros œuvre. Et c'est ça d'ailleurs tout l'intérêt du bois. Donc pour décarboner le secteur du bâtiment, Sandra, il faudrait passer de 7% seulement de logements en bois aujourd'hui à 30% via la mixité des matériaux utilisés. Et c'est justement l'objectif de la filière.
Comment on peut atteindre cet objectif? Quelles sont les solutions, Alexandra?
Alors en amont, une meilleure gestion des forêts avec plus de plantations de renouvellement, ça s'appelle. La filière s'est engagée à planter 50 millions de plants cette année, la même quantité qu'en 2021. En aval, des investissements massifs dans les outils de transformation afin de réduire les coûts de revient pour que les maîtres d'ouvrage incluent l'emploi de bois local dans leur cahier des charges. Trop souvent, les promoteurs se fournissent à l'étranger, tout simplement parce que le bois y est moins cher, même en incluant le coût du transport qui, lui, est exponentiel ces derniers temps. Jugez donc du paradoxe. Enfin, la grande tendance, c'est la préfabrication des éléments. C'est ce qui se passe, par exemple, pour la fameuse charpente de Notre-Dame.
Notre-Dame qui fait partie des projet emblématique censé porter l'avenir du bois, servir un peu d'exemple finalement.
Exactement, la reconstruction de la charpente de la cathédrale en bois donc, qui a commencé, attire en effet l'attention sur le bois. La filière s'est d'ailleurs organisée pour fournir une réponse séduisante et ce sont des PME françaises qui ont remporté l'appel d'offres. Cette charpente nécessite environ un millier de chênes d'un diamètre de 40 à 60 cm à la base, donc ça ne déforeste rien du tout, c'est 1% des capacités de production française. Bon, et puis si une fois qu'on a dit ça, c'est une belle opération de communication, mais surtout la preuve que ce matériau de construction et quoi qu'on en dise, compétitif finalement. Et puis il y a bien sûr, Sandra, la construction des infrastructures des JO de Paris en 2024. Tous les bâtiments jusqu'au 8e étage seront en bois à 100% et mixeront les matériaux au-dessus et c'est la solution, ce mix.
Voilà, maintenant on a une idée plus précise. Jean-Marc, c'est étonnant l'état de cette filière bois en France.
Oui, ce qui me frappe, c'est deux choses. D'abord, la dernière fois qu'Alexandre a été passé dans cette émission, nous avions évoqué les physiocrates. Et donc, je vais revenir sur les physiocrates qui indiquaient bien que le bois, c'était une façon de convertir le soleil en énergie de façon extrêmement efficace et extrêmement naturelle, sans pollution. Donc, le bois, c'est un matériau noble sur lequel on doit s'appuyer. Mais ce qui me frappe, et c'est la deuxième remarque que je ferai, c'est que on l'a vu cet été dans un département qui m'est cher,
la Gironde.
Les forêts sont quand même dans un mauvais état. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut penser à l'idée que la forêt, c'est aussi la sylviculture.
C'est la sylviculture,
c'est ça. Il faut travailler, ça se travaille, une forêt. Oui. Or, il y a eu une crise assez latente au sein de l'ONF. L'ONF perd une partie de ses personnels. L'ONF est soumise à des tensions sociales. Donc, je crois que les pouvoirs publics auraient intérêt véritablement à s'intéresser à ce secteur, ne serait-ce que par fidélité à l'héritage des physiocrates.
Ça, c'est sûr. Et c'est aussi une question de propriété des domaines. Mais on en reparlera dans cette émission.
Il y a beaucoup d'éléments qui jouent et ça mériterait qu'on regarde ça d'un peu plus près.
Mais Jean-Marc, il faut que vous expliquiez ce que c'est physiocrate.
Les physiocrates, ce sont les économistes du XVIIIe siècle qui pensaient que physiocrate, ça veut dire pouvoir de la nature, qu'on ne peut se développer qu'en respectant la nature. C'est un message que les écologistes portent aujourd'hui, mais de façon, à mon avis, moins pertinente que les physiocrates du XVIIIe siècle.
Merci beaucoup, Alexandra Paget, pour ce focus. Allez, c'est l'heure de l'édito de Jean-Marc.
BFM Business. 60 minutes business. L'édito de Jean-Marc Daniel.
Ah, dans vos marottes, il y a la Banque d'Angleterre, mais il y a aussi la Banque du Japon.
Oui,
action ou son inaction,
voilà,
d'ailleurs,
absolument.
Sur les taux.
Voilà, j'ai trois marottes, la Banque d'Angleterre, les physiocrates et le Japon. 2/3 aujourd'hui, c'est un grand jour.
C'est vrai.
Alors effectivement, tout le monde est surpris de la passivité de la Banque du Japon, notamment sur l'évolution de ses taux d'intérêt, avec comme conséquence que le yen n'arrête pas de baisser par rapport au dollar. Il y a encore une dizaine d'années, un dollar valait 75 yens. Quand M. Shinzo Abe, qui a été enterré récemment après sa mort tragique, Shinzo Abe a pris le pouvoir, le dollar valait 78 yens, et il avait annoncé que le yen était beaucoup trop fort. Il s'était donné un objectif qui était de 1 dollar égal 130 yens. Et donc là, on est à 1 dollar égal 140 yens. Oui. Donc finalement, on peut comprendre la passivité de la Banque du Japon en disant finalement, on a retrouvé ce taux d'équilibre. Mais qu'est-ce que c'est que pour le Japon, le taux d'équilibre? Ce que je trouve intéressant, c'est que le Japon est un pays qui vieillit très vite. La population active diminue. Et donc l'enjeu du Japon, c'est le revenu des retraités, plus encore que le niveau de production et le niveau de chômage. Et donc, le revenu des retraités, il est axé essentiellement sur le dollar. Pourquoi ? Parce qu'il y a un système de retraite par capitalisation, des fonds de pension qui ont placé de l'argent aux États-Unis, en Chine, en Indonésie, qui ont des ressources en dollars. Et l'appréciation du dollar se traduit par une augmentation du revenu des retraités.
Pour le moment, c'est intéressant.
Et donc, je pense que la leçon que l'on doit tirer par-delà la passivité de la Banque du Japon, qui intervient un peu sur le marché d'échange pour éviter que la chute du yen ne soit trop rapide et trop brutale, la leçon à tirer, c'est que quand on est un pays vieux, il faut dégager de l'épargne pour placer à l'étranger. Et la France devrait réfléchir au fait que, dans sa réforme des retraites, une des solutions, ce serait aussi d'aller placer et construire des usines à l'étranger pour payer les retraites.
Mais alors, il y a des freins au fonds de pension, à la capitalisation, Jean-Marc,
en
France.
Les gens ont du mal à s'en persuader. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il ferait bien de regarder le Japon. Indépendamment de mes amours japonaises, de penser à regarder le Japon.
Merci beaucoup, Jean-Marc. Allez, on va faire un point Euronext tout de suite. Et on parle avec vous, Étienne Brack, de ce gros rebond du CAC 40, quasiment 3%, plus 3%, Étienne.
Quelle séance, quel rebond pour ce CAC 40 qui est désormais à la porte des 6000 points. Déjà 5984 points, c'est un rebond de 3,3%, très impressionnant. Quasiment 200 points à la hausse avec, vous savez, le marché qui depuis des semaines s'inquiète des banques centrales. Et là, différents indicateurs aux États-Unis qui montrent que l'économie ralentit, notamment dans le secteur manufacturier. Et par rapport à cela, l'espoir que la Fed sera moins agressive que prévu. D'autant que ces dernières heures, vous avez la Banque d'Australie qui n'a pas annoncé une hausse de 50 points de base comme espéré, mais de 25 points de base. Et donc, vous avez les marchés actions qui repartent à la hausse et surtout les taux qui se détendent, les taux souverains, avec un 10 ans français qui perd 11 points de base à 2,40, un 10 ans américain qui est à 3,58 alors qu'il était à 4% la semaine dernière. Et donc, toutes les valeurs de croissance qui repartent à la hausse. Kering gagne 5,7% à 480 euros. Hermès plus 5% à 1290 euros. Vous avez Schneider ou encore Capgemini qui gagne un peu plus de 4%. Bref, toutes les valeurs du CAC 40 sont dans le vert et légère accalmie avant la réunion de l'OPEP demain sur les cours du pétrole. 90 dollars pour le baril de Brent ce midi.
En revanche, Etienne, M6 plonge de 10%.
Et très clairement, avec donc Bertelsmann qui met en pause la vente de M6 pour au moins 5 ans hein, suite à la règle avec les fréquences. Et suite à cela, vous avez tout le mouvement de spéculation qui dégonfle et ce titre qui signe la plus forte baisse du SBF 120, moins 10% à l'instant, 11,20€. Titre qui perd un peu plus de 40% depuis ses plus hauts. Et dans le sillage, eh bien, vous avez la spéculation qui revient sur certains titres avec notamment Énergie qui gagne un peu plus de 2%. Bien sûr, les marchés qui attendent de voir comment ça va se passer, la consolidation du secteur des médias dans les prochaines semaines.
Merci beaucoup Étienne Brack. Restez avec nous dans 60 minutes business. Dans un instant, on va faire un point sur l'industrie hôtelière française. Comment s'est passée cette année 2022? Comment évolue l'hébergement en France? Le secteur est-il toujours attractif? On va poser ces questions à Stéphane Botz, directeur national Hospitality KPMG, dans deux minutes. Restez avec nous.
BFM Business, 60 minutes business, l'invité.
60 minutes business avec nous ce midi. Stéphane Botz, directeur national Hospitality KPMG. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui dans 60 minutes business. Vous publiez cette étude annuelle, la 45e, sur l'industrie hôtelière en France. Et ce qu'on y apprend, c'est que l'industrie hôtelière va bien en cette quasiment fin d'année 2022. L'été s'est bien passé. On apprend par exemple que 150 projets hôteliers sont en préparation d'ici 2025. L'hôtellerie va bien, la fréquentation a été bonne. C'est un bilan assez positif.
Alors le bilan est effectivement positif puisqu'on l'a observé, une reprise à la fois du taux d'occupation et du prix moyen de la nuitée vendue des hôtels. Donc très clairement, aujourd'hui, ça se ressent en termes de performance de chiffre d'affaires, mais aussi de rentabilité.
Est-ce qu'on a atteint à nouveau les niveaux de 2019 avant la pandémie?
Alors, on l'a atteint les niveaux de 2019. On les a même dépassés pour certaines catégories d'établissements ou certaines zones géographiques qui sont plus, on va dire, en province ou en zone balnéaire ou montagne. Donc oui, on peut considérer que l'industrie hôtelière est à nouveau à plein en termes de rentabilité et de chiffre d'affaires.
Et ce, malgré une augmentation des prix qui est quand même assez palpable. C'est quoi? C'est dû à l'envie, l'envie de vacances, le retour des vacanciers, l'envie de loisirs, l'envie d'été. C'est l'état d'esprit des voyageurs qui fait que bon, finalement, le prix est accepté.
Alors, il y a un état d'esprit qui est déjà du marché domestique, oui. Parce que la clientèle française est toujours très présente dans l'industrie hôtelière et consomme beaucoup de nuitées hôtelières. Mais on l'assiste surtout à un retour des clientèles nord-américaines ou d'autres pays européens. Et donc, ça s'est senti très fortement sur le territoire français.
Jean-Marc.
Et est-ce qu'on assiste à une concentration dans le secteur ou est-ce qu'il y a encore toujours des petits hôtels, des hôtels de préfecture de Naguère, des hôtels qui sont très implantés dans le territoire local et avec une clientèle assez fidèle?
Alors, on assiste à deux phénomènes. Le premier, c'est que la France a toujours été détenue sur le plan hôtelier par des familles, en grande majorité. Donc, on voit très bien que la force des familles aujourd'hui crée, on va dire, le marché de l'industrie hôtelière sur la destination France et donc crée aussi la valeur des classes d'actifs telles qu'elles sont représentées. Et on l'assiste également à une émergence de produits, on va dire, de boutiques hôtels qui sont pas des hôtels de préfecture mais qui remplacent en fait les hôtels de préfecture et qui créent des lieux de destination et d'expérience.
Il y a une montée en gamme par rapport à l'hôtel de préfecture.
Que
ça se luxifie, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, est-ce qu'on a une plus haute qualité des établissements?
Alors, il y a une plus haute qualité parce qu'il y a une demande qui tend vers cette plus haute qualité, très clairement. Et on voit bien qu'il ne suffit pas juste de proposer une chambre d'hôtel, mais il faut aussi des services à côté. Et donc, il y a une recherche d'expérientiel, si vous me permettez l'expression, qui est au travers des produits hôteliers. Donc, ce sont des lieux de destination à part entière.
Et est-ce que Airbnb est un phénomène qui a été digéré par le monde hôtelier ou est-ce que c'est toujours une menace vécue comme telle?
Moi, je considère que ce Airbnb est une opportunité pour l'industrie hôtelière parce que ça a obligé les hôteliers à s'interroger sur la qualité de service qu'ils devaient apporter et donc à investir dans leur outil. Parce que c'est ça la clé de voûte de l'industrie hôtelière, c'est qu'il faut sans cesse investir dans son outil pour répondre aux besoins des consommateurs. Donc Airbnb n'est pour moi pas une menace, mais c'est un outil qui a permis d'aiguillonner l'industrie hôtelière vers toujours mieux.
Alors, on a vu qu'il y avait un certain nombre de projets hôteliers en préparation d'ici 2025. Il y a 150 projets, ce qui est beaucoup. Ce que j'ai lu aussi dans votre étude, c'est que le nombre d'hôtels a diminué de 6,5% en 2022. Comment on se situe sur ce chiffre par rapport aux années précédentes? Est-ce que c'est un chiffre fort ou pas vraiment?
Alors non, c'est pas un chiffre fort parce que si on regarde le nombre d'unités que cela représente, oui, il y a une diminution, mais en capacité de chambres offertes à la population, il y a une augmentation de ce nombre de chambres. Et puis il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'aujourd'hui on voit une hybridation des hébergements marchands. Donc cette hybridation amène de nouvelles formes d'hébergement marchand sur le marché et qui répondent très clairement à la demande. Donc aujourd'hui c'est quelque chose de plutôt très positif.
On va parler de l'avenir, on parlera tout à l'heure de la saison d'automne, mais on ne peut pas parler de cette activité, de cette industrie sans parler des problèmes de recrutement. Depuis la crise sanitaire, ils sont quotidiens, ils sont prégnants, l'industrie fait des efforts, mais la pénurie persiste.
Alors, elle persiste et elle est même plus que confirmée puisque je crois que c'est Jean-Virgile Kranz qui prend la tête de l'organisme qui représente l'ensemble du tourisme qui annonce entre 400 et 500 000 recherches de salariés nécessaires pour compenser le monde du café, hôtel, restaurant. D'accord ? On est un peu plus large que la simple industrie des hébergements marchands. Mmh. On voit qu'il y a un manque, c'est évident.
Mais quelles activités particulières sont touchées par cette pénurie de personnel ?
Je pense que c'est essentiellement la restauration qui est touchée et, on va dire, les services annexes à l'industrie hôtelière, comme le nettoyage ou ce qui contribue, on va dire, à l'embellissement d'un lieu.
Est-ce que vous pensez que ça va se traduire par une augmentation des frais de personnel et, in fine, par une répercussion sur le prix des produits hôteliers ? Ou est-ce qu'il va falloir s'adapter et vivre avec moins de personnel ?
Alors, deux choses, c'est que déjà les minima sociaux ont été augmentés quand même depuis le mois d'avril, donc ça c'est déjà une répercussion. De ce que je comprends des hôteliers, c'est que beaucoup d'hôteliers ont fait également beaucoup d'efforts en matière de rémunération auprès de leurs salariés, et même créé une adaptation maintenant des conditions de travail, puisqu'on voit de plus en plus d'hôteliers passer même à la semaine de 4 jours. Donc très clairement, c'est un vrai challenge pour les hôteliers et les propriétaires d'hôtels que de conserver les salariés. Est-ce que ça a un impact sur les charges de l'exploitation d'un établissement hôtelier? Oui. Maintenant, on a assisté à un effet de rattrapage avec les prix de moyens de nuitée vendus, et donc il y a une forme de compensation qui s'est réalisée à travers la politique tarifaire qui est répercutée auprès des clients.
Bon, l'automne, la saison automnale avant l'hiver s'annonce plutôt favorable, ça c'est la bonne nouvelle, a priori.
Oui. Alors le pick-up est plutôt très bon dans l'industrie hôtelière, puisqu'on voit bien que les hôteliers, et en particulier sur la place parisienne, enregistrent d'excellentes performances. Mmh. On voit juste un petit tassement du prix moyen à la nuitée vendue, parce qu'on voit bien qu'il y a un léger repli avec moindre clients, on va dire, étrangères.
Les Américains sont revenus, néanmoins, les populations asiatiques ne sont pas encore là.
Alors, les Américains sont revenus, et c'est encore plus un avantage, parce qu'avec la parité euro-dollar, ils avaient encore plus de chances de venir nous voir.
Oui.
Les Asiatiques, ça dépend, parce qu'on voit bien que certains pays, comme la Corée du Sud, étaient très présentes sur la destination parisienne. Mais effectivement, tout ce qui est clientèle chinoise ou japonaise ne sont pas encore vraiment revenus sur la destination France.
Alors, est-ce que vous avez des sujets d'inquiétude pour les mois à venir, l'année 2023 ?
Le sujet d'inquiétude qui touche un peu tous les Français, c'est la question des coûts énergétiques.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, en 2022, ça ne transparaît pas dans les comptes d'exploitation des hôtels. On voit bien que les négociations sont en cours et que c'est en fait en 2023 qu'on va se retrouver avec cette répercussion de coûts. Et donc, ça va avoir certainement un impact sur l'exploitation en propre des établissements hôteliers.
Vous n'allez pas quand même, enfin, les hôteliers ne vont pas quand même être obligés d'enlever des ampoules, de faire des couvre-feux?
Alors, non, parce que l'industrie hôtelière, moi je considère qu'en matière de RSE, est très en avance sur le sujet, puisqu'ils sont déjà passés souvent sur des ampoules à basse consommation. Ils invitent les clients à faire attention à l'utilisation de leurs serviettes éponges. Donc, ils sont déjà en avance sur les usages ou la manière dont on l'utilise une chambre ou on consomme une chambre. Mais il n'empêche quand même que quand on a des négociations de prix de gaz qui sont x2 ou x5 pour certains groupes hôteliers ou certains établissements hôteliers, ça a un impact mécanique sur la performance des établissements et donc la rentabilité.
Vous reviendrez nous voir pour en parler à ce moment-là.
Avec plaisir.
Merci Stéphane Botz, directeur national Hospitality KPMG, d'être venu nous voir aujourd'hui.
Merci à vous, merci de votre invitation.
Tout de suite, on accueille Pierre Kupferman.
BFM Business, 60 minutes business, le top 3 du web.
Le top 3 du web, et on commence avec cet article intitulé « Crise énergétique et si Enedis coupait votre ballon d'eau chaude grâce à Linky, Pierre ».
Ça peut vraiment paraître étrange, mais c'est techniquement possible. En fait,
c'est inquiétant.
Le compteur à distance ne peut évidemment pas couper l'alimentation de n'importe quel appareil branché chez vous. Ça, c'est pas possible. Mais Enedis affirme qu'il peut déconnecter, je cite, « le signal d'enclenchement automatique pour les usages électriques pilotés ». Ça paraît un peu curieux comme définition. Disons, pour les ballons d'eau chaude qui sont programmés, hein, dont la mise en route est programmée. Alors, c'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est de faire en sorte que on n'utilise pas, on fasse pas chauffer son ballon inutilement au moment où on est dans des pics de demande. Et donc, Enedis va utiliser cette possibilité, alors pas pour tous ses abonnés, mais pour ses abonnés qui sont avec un abonnement heure creuse, heure pleine. L'idée, c'est de faire en sorte que, justement, le ballon d'eau chaude soit activé au moment des heures creuses. Ça concerne les particuliers, mais ça concerne aussi les professionnels et les collectivités locales qui bénéficient d'une puissance maximale de 36 kilos, je ne sais pas comment on dit, KVA, enfin bon, volt-ampère.
Voilà.
Très bien.
Combien ils sont?
Je continue, Jean-Marc. Alors, combien de...
Volt-ampère?
Oui, non, mais combien de personnes, donc, puisque, ou combien de... d'abonnés sont concernés par cette éventuelle coupure à l'heure du déjeuner, en principe, plutôt. Enfin, en tout cas, en journée.
Il faut savoir combien il y a de gens qui ont un compteur Linky, c'est ça?
Il y a plein d'en... Ouais, il y a le compteur Linky, il faut être dans ces...
Il faut avoir un ballon d'eau chaude aussi.
Aussi.
Oh, je ne sais pas, 5 millions de personnes.
Bien.
Bravo,
4 millions 300 000, il est très fort, hein, quand même, il faut le dire. Et ça fait beaucoup d'économies à la clé, quand même, hein, parce que, bon, j'ai envie de dire, surtout un moment clé, qui est l'heure du déjeuner, et parce que c'est à ce moment-là qu'il y a quand même, on voit une petite, enfin une vraie pointe, et donc il fallait, enfin ça servait à rien en fait. Hein.
On reste dans le logement avec vous, Pierre. Cette fois, ce sont les logements qui ne trouvent pas preneur.
Oui, alors pas n'importe lesquels. Hein. C'est un ensemble immobilier de plusieurs dizaines d'appartements neufs, dont une partie avec vue sur le Sacré-Cœur. Mais si je vous dis le nom du programme, je crois que vous allez comprendre pourquoi les acheteurs ne se précipitent pas.
Comment ça s'appelle ?
Chapelle Internationale. Donc la vue n'est pas seulement sur le Sacré-Cœur, mais aussi sur les consommateurs et vendeurs de crack. Et alors, une partie de cet ensemble immobilier, ce sont des logements sociaux. Bon, là, ils trouvent preneur, mais il y a une autre partie qui a vocation à être vendue en tant que logement intermédiaire. Et là, vraiment, on a des difficultés à trouver des candidats à l'acquisition, même si les prix sont largement en dessous de, alors qu'on est dans du neuf, hein, largement en dessous des moyennes du 18e arrondissement de Paris. D'autant que vous avez une partie de ceux qui ont acheté les premiers logements disponibles qui veulent déjà les revendre.
Alors que c'est un si beau quartier. Et on finit avec le scoop de Mathieu Pechberti, ce départ annoncé du patron d'Atos, qui est donc programmé plus tôt que prévu pour cet été, Pierre.
Exactement. Mathieu revient en détail sur ce départ qui sera effectif lorsque Atos sera scindé en deux. Alors, activité historique dans les services informatiques d'un côté, cloud de l'autre. Ce découpage, il devait au départ intervenir en fin 2023, mais la scission a l'air d'avancer plus vite que prévu. Ouais. Et le départ annoncé de Bertrand Meunier est un moyen, évidemment, de calmer les actionnaires mécontents de la gouvernance, de les faire patienter jusqu'à l'été prochain. C'est assez classique, ça, hein, comme contre-feu, Jean-Marc.
Oui, le départ d'une personne clairement identifiée, c'est toujours un moyen de calmer le jeu. Mais enfin, il faudra quand même faire le bilan de tout un tas de gens dans cette affaire. Je maintiens, il y a une saga littéraire derrière tout ça. Je comprends qu'il y ait une irritation économique des actionnaires.
Merci beaucoup, messieurs, le top 3 du web. Merci, Jean-Marc. Merci, Pierre.
À demain.
Allez, vous restez avec nous dans un instant. C'est le journal de Stéphane Nicolo, puis BFM avec vous, avec Lorraine.
BFM Business, l'info éco, Stéphane Nicolo.
Et à la une, c'est le changement de gouvernance en vue chez Atos. Le président Bertrand Meunier est la cible d'actionnaires minoritaires qui réclament son départ. Et selon nos informations, il quittera son poste l'été prochain quand la scission du groupe sera finalisée et que la branche cyber sera logée dans une nouvelle filiale, Evidian. Son refus d'étudier l'offre de rachat de cette activité par OnePoint a été très mal vu. Une offre d'ailleurs qui est toujours sur la table. Son président David Layani a tenu à lancer un appel aux actionnaires d'Atos ce matin. Il était l'invité de Good Morning Business.
C'est un projet qui dépassent les uns et les autres. Ma propre personne, il s'agit de 110 000 salariés. OnePoint est une entreprise de 3 000 salariés pardon, qui s'est imposée comme un leader de la transformation digitale. On a ce champion à bâtir. On veut le bâtir de façon amicale, collaborative, pensée, pesée. J'ai bon espoir que les uns et les autres considèrent les choses pour qu'on puisse discuter.
L'offre est toujours sur la table. Ça n'a pas changé au même niveau.
Sur la table.
4 milliards d'euros.
Elle est toujours amicale.
Ouais.
Et on demande toujours aux uns et aux autres de prendre leurs responsabilités pour qu'on puisse discuter et lever, le cas échéant, tous les obstacles.
Les fusions bancaires transfrontalières ne sont ni pour aujourd'hui ni pour demain. Déclaration de Frédéric Oudéa à la mi-journée. Le patron de Société Générale ajoute qu'il pourrait faire une ou deux transactions, mais rien de systémique. Par ailleurs, toujours à propos de Société Générale, Marie-Christine Ducholet est nommée directrice de la nouvelle banque de détail en France. Elle prendra ses fonctions le 1er janvier prochain. L'État va déposer aujourd'hui son offre auprès de l'AMF pour renationaliser EDF. C'est une information des Échos. Conséquence, le titre va être retiré de la cote après 17 années de cotation. L'appel de Bruxelles en faveur d'un emprunt commun face à la crise énergétique. Le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, et le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, veulent utiliser le même mécanisme que pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire un emprunt souscrit au nom des pays européens, dont les sommes seraient redistribuées sous forme de prêts au gouvernement. En Allemagne, en pleine crise de l'énergie, le géant RWE s'engage à fermer ses centrales charbon d'ici 2030, soit deux fois plus vite que prévu. Cette mesure devrait permettre d'économiser 280 millions de tonnes de CO2, selon le ministre de l'économie. Le loueur Sixt va se fournir en véhicules électriques auprès du chinois BYD. Des milliers de voitures ont été commandées. Ils seront proposés à la location en Europe d'ici la fin de l'année. Et Sixt devrait lancer une commande de 100 1000 véhicules électriques supplémentaires auprès de son partenaire chinois d'ici 2028. Et puis, l'Arabie Saoudite va accueillir les Jeux Asiatiques d'hiver. Ce sera en 2029. L'événement aura lieu à Neom, une mégalopole futuriste en construction dans le nord-ouest du royaume qui promet d'être alimentée à 100% par l'énergie renouvelable. On jette un coup d'œil au marché à la mi-journée. Le CAC est en très grande forme, plus 3,5%, 5998 points. On se rapproche des 6000 points, Sandra.
Merci Stéphanie. Votre prochain journal à 15h.
Votre rendez-vous avec Bruno.fr, le spécialiste de tous les équipements de travail pour les professionnels. Bruno, à vos côtés pour réussir.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM avec vous, Lorraine Goumeau est avec nous, bien sûr. Lorraine, on parle de décarbonation et de travail aujourd'hui.
Oui, excellente transition avec ces Jeux d'hiver en Arabie Saoudite. Vous venez d'entendre notre journal de Stéphanie. On va se poser la question de quelles sont les dernières évolutions en matière de droit en rapport avec la décarbonation. Et on va se poser la question du rôle des RH, des ressources humaines, dans ce chantier de la décarbonisation. Pour répondre à quelques-unes de vos questions et de nos interrogations, on est avec Jérôme Scapoli. Bonjour Jérôme.
Bonjour Lorraine.
Merci d'être avec nous, avec Sandra et toute l'équipe. Vous êtes avocat associé au cabinet Osborne Clark. On va démarrer en vous demandant un petit exercice de définition. Finalement, on parle tous de décarbonation, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire dans la bouche d'un avocat?
Alors, au niveau de l'entreprise, surtout, la décarbonation sont l'ensemble des politiques et des plans d'action qu'une entreprise peut mettre en place après avoir réalisé, la plupart du temps, un bilan carbone, savoir ce qu'elle consomme, ce qu'elle émet comme gaz à effet de serre, tant par rapport à son activité que par rapport à ses fournisseurs, l'ensemble des consommables, des produits, etc. Et ensuite, donc, la déclinaison qu'elle met en place dans l'entreprise, dans son activité, pour réduire cet effet de serre.
Alors on va parler de droit social, de droit du travail. Comment ça se matérialise actuellement dans le droit français? Quelles sont les dernières évolutions? Droit français ou européen d'ailleurs?
Alors on a effectivement un enchevêtrement enchevêtrement, le mot est peut-être un peu négatif, mais en tout cas, on a un certain nombre de textes qui sont sortis depuis 2015. Alors, on a le texte important issu des accords de Paris, issu de la COP21 en 2015, qui là dresse le bilan et met comme objectif à 2050 une neutralité carbone pour l'ensemble des Français et plus largement des pays qui sont engagés sur la COP21. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, un Français émet à peu près 9,5 tonnes de carbone par an. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il faudrait émettre 2 tonnes par an. Donc effectivement, le chemin à parcourir est très important et chacun doit y contribuer, y compris les entreprises. Ensuite, on a plusieurs lois qui sont intervenues. Une loi de 2015 qui est venue inciter les entreprises à réaliser des bilans carbone, justement, à mettre en place des plans d'action. Alors, pour les entreprises de plus de 500 salariés, mais également pour les entreprises commerciales, de mettre dans leur rapport annuel des objectifs environnementaux. On a la loi PACTE, qui est venue, la loi de 2019, la loi PACTE, qui est venue inciter les entreprises à inscrire la politique environnementale, la politique de réduction carbone, justement, dans leur politique de développement. C'était assez nouveau, parce que l'entreprise, justement, n'est plus qu'un focus économique, mais également un focus énergétique et environnemental. Et puis, une loi de 2021, Climat et Résilience, qui est venue inciter les entreprises et obliger les entreprises à dialoguer avec les représentants du personnel, avec le CSE, le Comité Social et Économique, puisque désormais, le Comité Social et Économique doit, dans les entreprises de plus de 50 salariés, être informé et consulté sur l'impact environnemental de toutes les décisions de l'entreprise.
Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles les entreprises s'emparent de ce sujet, au-delà des incitations gouvernementales et des nouvelles lois qui apparaissent ?
Il y a nombreuses raisons, effectivement, pour lesquelles les entreprises s'engagent. Une des premières, au-delà des obligations réglementaires, c'est une question aussi d'attractivité. Comment attirer les talents ? Comment retenir les talents ? Il y a une étude qui a été menée par l'ADEME l'année dernière, avec le CSA, qui indique que pour 78% des salariés, à offre équivalente, les salariés choisissent une entreprise qui s'est engagée dans la transition écologique. Donc on voit que c'est un sujet très important pour les salariés, donc qui doit être très important pour les entreprises, même si les entreprises en ont conscience. Et un autre élément aussi, c'est que parmi les jeunes de moins de 35 ans, l'environnement et la question de la transition écologique est le premier sujet, justement, de préoccupation.
En préparant cette émission, vous nous confiez qu'il y avait beaucoup d'outils à disposition et que quelque part, la décarbonation, elle passerait le mieux et le plus efficacement via les RH, via les ressources humaines, quelle que soit la taille des ressources humaines. Est-ce qu'on peut revenir sur ce sujet d'outils à disposition qui pourraient être enclenchés, utilisés, clés en main par les RH dans les entreprises françaises ?
Alors, ce qu'on constate, effectivement, c'est que les entreprises, et donc les ressources humaines en particulier, doivent nécessairement, évidemment, s'emparer du sujet. Mais aujourd'hui, certaines peuvent paraître un peu timides. Et il y a des outils qui existent, qui sont à disposition des entreprises et qui doivent être pris en compte. Par exemple, les questions de rémunération individuelle. On peut tout à fait mettre des objectifs environnementaux, de réduction des consommables, etc., dans les objectifs individuels des salariés, donc dans leur rémunération de bonus ou autre. Autre dispositif, c'est le dispositif de rémunération collective. On pense aux accords d'intéressement, qui là, justement, sont extrêmement précieux, puisqu'on peut adapter aux besoins de l'entreprise, à son mode de fonctionnement, les critères pour calculer l'intéressement. C'est-à-dire que les sommes qu'on va verser aux salariés, qui sont défiscalisées et non soumises à cotisation, justement, vont prendre en considération une baisse des consommables, une baisse de produits chimiques, etc., de façon à inciter chaque personne au quotidien à jouer son rôle dans la transition énergétique.
Là, on incite le salarié. Et comment on fait pour faire le contraire, pour que le salarié puisse convaincre son entreprise et se faire entendre ?
Alors, là, il y a d'une part, effectivement, le dialogue social qui peut rentrer en ligne de compte. J'ai parlé tout à l'heure du nouveau rôle du CSE. Donc, on sait que dans le cadre du dialogue social, ces questions, notamment via des chartes négociées ou des accords de mobilité, des accords télétravail, des accords sur la qualité de vie au travail, tous ces outils, justement, peuvent rentrer en ligne de compte. Alors, je parle des élus, mais on peut aussi prendre en considération, mettre en place, dans le cadre des outils RSE, de responsabilité sociale de l'entreprise, mettre en place des systèmes de dialogue, de discussion avec les salariés un par un, de façon à faire émerger de nouvelles idées.
Jérôme, pour conclure, vous faisiez référence à cette loi Climat et Résilience de 2021, le rôle du CSE, mais pardon, pour être un peu polémique, est-ce que tout le monde au CSE a voix au chapitre, ou d'ailleurs dans l'entreprise, pour dire ça, ça serait bien parce que ça va nous aider à décarboner? Vous voyez, l'expertise décarbonation, comment on fait pour pas que ce soit du greenwashing ou de la bonne conscience écologique, comme quand même on est tous animés d'une bonne conscience écologique, mais voyez comment on est sûr qu'elle est effective, qu'elle fonctionne et qu'elle vient baisser le bilan carbone des entreprises?
Ça, c'est déterminant, effectivement, puisque on voit aujourd'hui que, y compris parmi les élus, donc les membres du CSE, il y a parfois une méconnaissance du sujet. Donc là, ça passe par une responsabilisation liée à des formations, une implication des salariés, des représentants du personnel dans la mise en place des plans d'action, puisque c'est dès la réflexion sur ce plan d'action. C'est pas simplement une fois qu'on aura décidé d'une action, on va dire maintenant vous faites cela et c'est pas autrement. Non, il faut vraiment en amont mettre sur la table, dans le cadre du dialogue avec les salariés, avec la représentante du personnel, effectivement, après éventuellement les avoir formés sur le sujet, les questions de décarbonation.
Voilà, on a essayé de répondre à quelques-unes des questions.
On a encore beaucoup à répondre. Vous reviendrez nous voir, évidemment. Merci beaucoup, Jérôme Scapoli, avocat associé chez Osborne Clark. Pardon, vous restez avec nous. Dans un instant, on recrute.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM avec vous recrute comme tous les jours. Lorraine, et votre premier recruteur est Yvan Rivaud.
Oui, c'est le co-CEO de l'Homme, une boîte lilloise qui vient nous voir ce midi dans notre plateau de Paris. Bonjour Yvan.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête d'une entreprise qui permet une meilleure collaboration, un meilleur travail, particulièrement pour les PME et les ETI dans l'industrie. Alors, qu'est-ce que vous faites très concrètement?
Alors, Olom, c'est une plateforme, c'est une nouvelle type de plateforme de gestion des ressources de l'entreprise. C'est collaboratif et c'est complètement mobile. Et l'idée, c'est de gérer toutes les ressources de l'entreprise. Qu'est-ce qu'une ressource?
Oui, exactement. Il y a plusieurs types de ressources.
Exactement. Une ressource, ça peut être une matière première, ça peut être un écran de télévision, ça peut être une personne aussi. Aujourd'hui, on a 4 produits. On arrive à suivre tous ces types de produits, personnes, équipements, télé et production.
Pourquoi s'adresser en particulier à les entreprises de taille moyenne dans l'industrie? Elles étaient mal servies par les solutions actuelles?
Alors, nous, on est avec mon associé Barthélémy, nous sommes des anciens industriels. Et en fait, Olom, c'est né d'une frustration. C'est né d'une frustration aussi d'un constat. Étant ancien industriel, on était patron de société. Mmh. On avait beaucoup, beaucoup de mal à trouver des solutions simples et ergonomiques à mettre en place. Donc, on a quitté notre ancien groupe, on a créé Olom. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver avec des solutions plug and play, très, très faciles d'utilisation. Notre record, c'est installer une solution en moins d'une demi-journée. C'était installer le matin, former l'après-midi, l'utiliser. Alors que sur l'IT industriel classique, vous êtes plus sur des projets qui durent plusieurs mois, qui coûtent extrêmement cher en argent et en temps. Et donc, nous, on arrive un petit peu pour bousculer tout ça.
Alors, vous êtes une dizaine pour le moment. Et vous recrutez 5 personnes. Quel type de poste vous recrutez?
Alors, aujourd'hui, on a 50% de commerciaux ou des métiers liés au commercial, 50% de développeurs et des techniciens. Les postes qu'on recrute aujourd'hui, c'est un mix d'un petit peu de tout, en fait. On recrute des gens, vu qu'on a très très forte croissance, on vise 12 personnes à la fin de l'année, on veut doubler à la fin de l'année.
Vous avez
prochaine.
Un an, on le rappelle. Hein,
ouais. Ouais, donc on a tout juste un an, donc on a une croissance assez importante. Et là, aujourd'hui, comme on a une charge qui arrive forte, eh bien, l'application, la solution, il faut la maintenir, il faut la développer. On a pour objectif d'arriver avec des nouvelles solutions et des nouvelles fonctionnalités tous les trimestres. Donc on a besoin de développeurs full stack, front, back. On a besoin de personnes aussi pour nous aider à la commercialisation, des growth hackers, des gens qui sont en charge du business online pour nous et aussi pour le business standard, parce qu'on s'adresse à des entreprises qui ne sont pas très portés sur le numérique. Donc, on a aussi une approche très classique sur certaines entreprises.
Pour vos développeurs front et pour vos usagers, décrivez-nous une des solutions que vous proposez très concrètement, une des features ou un des produits.
Alors, vous voyez, autour de nous, il y a des télés partout, il y a des caméras partout. Holom équipement, c'est on prend un équipement, on lui met un QR code, on flash le QR code. Vous savez, c'est un peu comme le pass sanitaire. On regarde, on flash, est-ce que la personne a été vaccinée ou pas. Là, c'est on flash le QR code, est-ce que la caméra est toujours dans son délai de garantie, est-ce qu'elle a bien été maintenue, à qui a-t-elle été associée, où est-ce qu'elle a été posée, où est-ce qu'elle a été transportée et tout. On trace tout le cycle de vie de la caméra, en fait. Et donc, on peut faire ça avec des voitures, on peut faire ça avec des ordinateurs, et aussi, on peut faire ça avec des personnes, vu qu'on est aussi capable de tracer les cycles de vie des personnes et des certifications.
Et des micros aussi, pour ceux qui nous écoutent à la radio.
On peut Exactement, excusez-moi.
Alors voilà, bon, vous avez compris, beaucoup de données, on comprend, vous êtes en tension à la fois sur des postes de commerciaux et des postes de développeurs. Ouais. Un mot, juste pour conclure, entreprise toute jeune, donc c'est-à-dire qu'il y a encore une opportunité d'être très proche du patron ou des patrons, de rejoindre une équipe dynamique, ça se passe entre Paris et Lille. Ouais. Comment on vend mieux encore votre boîte?
Le truc, c'est là, il y a une opportunité assez importante de rejoindre une équipe qui est vraiment jeune et vraiment d'arriver à des postes où vous pouvez apporter beaucoup à la société. Nous, on cherche des profils, des couteaux suisses, c'est normal, on n'est pas nombreux, mais surtout, on a besoin des gens qui s'impliquent, qui arrivent avec des idées et qui pourront justement les mettre très très facilement à exécution. Donc nous, on a besoin de profils jeunes et dynamiques et qui ont vraiment envie de changer l'industrie et pour poursuivre la réindustrialisation de la France.
Et c'est toujours passionnant d'arriver au début d'une aventure, en tout cas. Où est-ce qu'on postule, Lorraine ?
Eh bien oui, c'est vraiment le début. C'est Yvan, le co-CEO, qui vous donne son adresse email. C'est yvan@olome.io, Olome, O-L-O-M-E. Ça se passe aussi sur le site d'Aura Technologies, le campus, l'incubateur de Lille, et puis bien sûr sur le site aussi de Pôle emploi et de l'homme.io.
Merci Yvan Evo d'être venu nous voir aujourd'hui.
Merci à vous deux.
On vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Twitter, sur cette adresse aussi avec vous @bfmbusiness.fr. Vous pouvez regarder aussi attentivement vos écrans, vos tablettes et surveiller ce QR code grâce auquel vous pouvez nous écrire directement. Votre deuxième recruteur, Lorraine, est Pierre Guirard.
Alors pour nous, Parisiens, on reste un peu dans le Nord puisque notre deuxième recruteur arrive de Compiègne. Bonjour Pierre Guirard.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Wyz Group, WYZ. Avec vous, on est toujours un petit peu dans le digital, mais appliqué au marché du pneumatique. Alors expliquez-nous très concrètement ce que vous faites.
En deux mots, on a essayé de combler un manque. Donc on crée des solutions digitales pour permettre au réseau de concessionnaires automobiles d'avoir une disponibilité en pneus proche de 100%. Donc nous-mêmes, on n'a pas de stock, mais on sait chercher les pneus partout en Europe. Et à travers nos solutions digitales, on permet à un concessionnaire d'avoir une réponse sur l'ensemble des produits, et Dieu sait s'il y en a.
Vous êtes comme un énorme scrapper sur le web qui va chercher tous les stocks de pneus.
Voilà, alors c'est un peu péjoratif, mais effectivement on va chercher les produits un petit peu partout en Europe et on amène de la valeur ajoutée en matière de service auprès de nos clients pour avoir une disponibilité en 4 heures, en 2 jours, quel que soit le produit et quelle que soit la marque.
Vous avez besoin de 6 personnes, vous êtes 60 actuellement, vous avez besoin de quel poste ?
Alors plutôt, on recherche en permanence des gens de... Nous sommes en forte croissance, 36% par an depuis 10 ans maintenant. Nous recherchons tout type de profils, mais actuellement, plutôt des data ingénieurs. On travaille beaucoup autour de la donnée. Développeurs seniors. Donc, des métiers technologiques.
Alors, loin d'être péjoratif, dans le sens scrapper, on sent que la technologie, elle est utile, et pas seulement en France, puisque vous couvrez 7 pays en Europe. Est-ce que la situation du marché automobile explique aussi votre croissance? On sait qu'il y a beaucoup de pénuries, les voitures ne sortent pas des usines, il faut renouveler les équipements des voitures qui roulent actuellement. Est-ce que c'est ça, un des sous-jacents de votre croissance?
Je pense que ça a d'autant plus de sens aujourd'hui. Quand nous sommes lancés il y a 13 ans, la problématique était déjà installée sur le pneumatique. Il manquait à peu près 10% de produits en permanence. Aujourd'hui, les usines sont mondialisées, les productions sont mondialisées, les usines sont un petit peu partout. Et donc, à l'instant T, il manque des produits. Alors, on a pris l'exemple du pneumatique, mais on pourrait dupliquer ça évidemment sur d'autres produits. Notre objectif est de profiter finalement de la technologie et du digital pour arriver à combler ces manques liés à l'industrialisation et la mondialisation.
Est-ce que vous recherchez des femmes sur ces postes? Je vois que vous êtes plus nombreux, il y a plus de femmes dans votre entreprise que d'hommes en fait.
Oui, je suis assez fier de ça, je veux dire. 55% de femmes dans notre entreprise. C'est tout simplement parce que je pense qu'on a des métiers qui sont très diversifiés. Dans mon comité de direction, il y a autant de femmes que d'hommes, donc il y a une vraie volonté de l'entreprise. Et puis, je pense qu'elles amènent une forte valeur ajoutée, beaucoup de sourires, voilà, de temps en temps du caractère aussi. Ça fait partie, je pense, de notre équilibre. C'est un fait, mais c'est aussi un souhait de notre part.
Voilà, vous l'avez entendu, deux typologies de postes. Évidemment, côté ingénieur, côté développeur, vous avez besoin de gens pour travailler sur votre interface, sur vos solutions digitales, et puis aussi des chefs de projet toujours digitaux. Comment on vient rejoindre l'univers du pneumatique quand on n'y connaît rien, mais qu'on a une grosse compétence de chef de projet digital?
Je dirais qu'on vient y chercher une histoire. On a la chance d'avoir des très beaux clients qui sont, je l'ai dit, les constructeurs automobiles principalement, mais pas que, des gros acteurs de l'automobile. On a la chance
d'avoir des clients. Vous pouvez les citer, hein?
Oui, des Renault, Stellantis, des acteurs qui sont aujourd'hui qui ont pignon sur rue, Toyota au niveau européen. Et notre souhait, c'est d'arriver à créer des solutions qui sont complètement intégrées dans les solutions de nos clients. Donc il y a beaucoup de technologie, beaucoup de sécurité. Et évidemment, il y a une véritable aventure à vivre. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien, en améliorant aussi le bien-être au travail de nos collaborateurs. Mais je crois qu'il faut donner du sens à chacun de nos métiers. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire à travers ces applications.
En parlant de bien-être au travail, vous prévoyez du télétravail pour vos collaborateurs. C'est important en ce moment.
Bien sûr. Alors, on a un accord télétravail depuis quelques mois. Il faut savoir que pendant la période Covid, 3 semaines avant tout le monde, on a basculé en télétravail à 100%. Ça s'est plutôt bien passé compte tenu de notre métier. Mais une fois le Covid plus ou moins derrière nous, en tout cas, on a décidé de signer un accord qui nous permet d'avoir 2 jours de télétravail maximum. En fonction de certaines conditions. Je pense qu'il faut trouver un bon équilibre. On vient de renouveler nos locaux, on est locaux flambant neufs. C'est aussi important que les gens se retrouvent, puissent travailler en équipe. C'est partie de nos valeurs. Mais il est aussi important de temps en temps d'avoir des moments de répit et de tranquillité. Et c'est ce qu'on essaye de faire, un bon équilibre.
Voilà, pour postuler, vous écrivez à Perrine qui nous a donné son adresse email, c'est perrine.pierrepont@wisgroup.com. Vous allez retrouver aussi quelques-unes des offres qu'on a pu égrener, data ingénieur, ingénieur assurance qualité informatique, développeur, ingénieur DevOps et aussi des chefs de projet sur le site de Welcome to the Jungle, sur la page Wisgroup et puis aussi sur la PEC et Pôle emploi, bien sûr, acteur incontournable quand on cherche du travail. Ça se passe du côté de Compiègne, vous l'avez entendu, mais avec aussi un petit peu de télétravail.
Merci Pierre Guérard d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci Lorraine, demain nous parlerons entrepreneurs, on répondra à leurs questions. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast et en replay. Je vous retrouve demain à midi, 60 minutes business avec Jean-Marc Daniel, Lorraine, nos invités, Stéphanie Collot également. Très bonne journée.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.